43 71 89 40 sur Radio Liberté. Radio Liberté, c'est la radio sans lieu ni maître de la Fédération anarchiste et urbi comme orbi, sans sponsor ni publicité. Donc on est bien sûr Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, bah, y compris celle de Kevin Lambert. Salut Kevin, ça vient, voilà, ça vient, bel accent là.
Ben là, je vais pas le changer pour vous.
Il n'y a pas de Marseille, Marseille, on arrive directement de Marseille, bien sûr. Et Alban Lefranc, bonjour. Bonsoir. Alban. Bien bonjour. Sûr. Alors à la technique, je vous présente non pas sœur Monique comme habituellement, parce qu'elle nous a fait un peu de défection, mais effectivement Monique qui est tous les dimanches au Sacré-Cœur, prie pour ma rédemption. Hein, voilà, c'est très difficile. Elle a beaucoup de boulot, surtout avec les textes que nous avons aujourd'hui. Hein. Alors. C'est un plaisir de vous avoir. Je vais quand même vous en raconter mes rapports avec Monsieur Benoît Virot, qui ne sont pas brillants d'ailleurs. Hein, bonjour, bonsoir. Bonjour, monsieur l'éditeur. Comment ça va? Ça va?
De mieux en mieux.
De mieux en mieux. Je crois que le dernier rapport qu'on a eu ensemble, du moins visuellement, c'est celui où tu n'es pas venu, lâchement. C'était le livre Marx et la poupée.
C'est bien possible.
Bien. Beau livre, non?
Super auteur et super écriture et superbe forme.
Qu'est-ce qu'elle devient, notre amie, Marianne Maggedi?
Elle vient de sortir une toute petite plaquette à l'École des loisirs qui s'appelle Je m'appelle Mariam, qui est une sorte de transposition jeunesse du roman adulte. Elle est en train d'aménager dans une nouvelle maison et elle prépare le deuxième roman pour l'année prochaine.
Chez Nouvelle Attila?
Au Nouvelle Attila.
Ah, c'est bien, elle viendra.
Ah ben, tu viendras,
mais c'est pas tellement grave. Alors on explique un peu la situation. Kevin, ça fait longtemps que j'ai eu votre roman entre les mains, longtemps j'ai eu le temps de là. Et on était censé faire une émission avec mademoiselle ou madame, je sais pas, d'autres Pierson ou Pierson, je sais pas, 12 petits précis de pornographie au Nouvel Attila. Et Vlatipak, il y a 3 jours, monsieur Benoît. Mais il est coutumier ce genre d'action comme ça. Et surtout qu'il devait m'inviter au restaurant depuis fort longtemps. Plus. Et je rentre en contact avec lui et je me suis dit, ça y est, il m'invite enfin au restaurant. Et c'est pour me dire que non. Que non, mademoiselle Dot Pearson est coincée aux États-Unis, c'est ça? Mm-hmm. Et puis voilà, il est comme ça. Et bon, on reste avec un petit silence. Et puis là, brusquement, il me dit, Alban Lefranc a publié L'homme qui brûle. Il m'en fait un bon commentaire. Il est quand même gentil, comme ça. Et je me suis dit, tiens, il va me vendre la sauce en m'invitant au restaurant, pensez-vous. J'attends hier soir, rien, j'attends. Et il m'a téléphoné ce matin vers 10h, en me disant, on se voit vers 10h. J'ai dit, c'est un peu tôt pour manger. Donc j'avais rendez-vous avec lui à 10h30, j'ai eu le livre. Donc franchement, je ne l'ai pas lu intégralement, forcément. Je l'ai lu mais on a quand même plein de choses à se dire.
Formidable.
Ça va comme ça, hein?
C'est très bien.
C'est très 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 bien comme ça. Alors je vous rappelle quand même que on a un grand programme avec toujours Monique aux manettes. Le 7 octobre, nous recevrons la revue Empreinte, je ne sais pas si tu connais. Très belle
Absolument,
revue.
Absolument, il y a une galerie du 19e.
Très bien, très belle revue. Le 21 octobre, nous ferons une émission sur la politique et la poétique d'Aimé Césaire. Ah, voilà. Avec Françoise Vergès. Ça vous dit quelque chose, Aimé Césaire, ou pas?
Ah oui, Aimé Césaire.
Ah oui, non, Aimé Césaire. Ah ben, allez-y, ça vous dit quoi? C'est fondamental, non?
Oui,
à cause de cette émission, je l'ai relu. Quoi, je connais ça depuis très longtemps et ça m'a paru vraiment paf, ça tombe comme ça. Non?
Parce que, si, absolument. Je ne l'ai pas relu, moi, mais j'avais beaucoup aimé. C'est les cahiers d'un pays au. D'un retour au pays natal, ouais, c'est ça.
Oui.
J'avais été très frappé par ce texte à l'époque.
Ouais. Bah, c'est une fortement engagé, fortement politique. Ouais. Moi, c'est un très beau texte aussi que là, je ne pourrais pas improviser un commentaire comme ça. Non, mais je ne l'ai pas lu récemment.
Moi, je vous engage à le relire, à retomber dedans.
Mais oui, il faudrait que je le relise.
Vous enfermez chez vous un petit peu, vous le relisez et c'est vraiment la chose qui vous tombe dessus.
Ouais, j'en garde un.
Le cahier d'un retour au pays natal, on se demande comment le. On va en parler, c'est sur le langage, etc. Comment le génie de la langue tombe sur quelqu'un.
Et puis doser une prose de mémoire, doser une prose presque rimbaldienne, quoi.
Totalement.
50 ans après.
Totalement,
ça,
totalement, totalement.
Fort,
et ce qui est très marrant, c'est ce jeune garçon qui vient des îles, qui tombe sur un normal sup, c'est-à-dire la structure mentale assez serrée. En 37, alors qu'il est né en 13, vous pond ce texte qui est absolument éruptif. D'où ça vient? C'est tout. Bah, on va en parler tous les trois, monsieur. Vous pouvez aussi, monsieur Virot aussi. C'est tout le mystère de l'écriture. D'où ça vient?
Voilà. Ouais, ben, une grande question.
Grande question, mais c'est peut-être la question fondamentale.
Peut-être.
Voilà, d'où ça vient? Au dehors du phénomène narratif, parce que vous faites du roman tous les deux. Au-delà du phénomène narratif, il y a autre chose au-delà du roman. Qu'est-ce qui vous pousse
à écrire?
C'est le langage.
Ben moi, c'est le langage, mais c'est de poser des questions politiques à partir du langage, avec le langage, puis de se demander comment le langage organise la politique, organise l'ordre du monde, l'ordre social, puis comment on peut utiliser le langage comme moyen de lutte, en fait. La littérature, c'est ça pour moi, c'est une manière de lutter dans le langage.
Alors, Kevin Lambert pour Curel, je vous raconte mon histoire entre vous et moi.
Ouais.
On a déjà une grave histoire entre vous et moi. Je vous ai lu. J'ai lu 30 pages et j'ai dit c'est de la merde. Je l'ai lancé comme ça et heureusement, quelqu'un m'a dit fais pas ça, lis-le. Je l'ai repris et forcément, bravo, c'est très, très, très beau.
Bon, merci.
Voilà. C'est pour, donc, je dis ça pour les gens qui vont le lire. C'est-à-dire, si ça n'accroche pas dès le départ, allez-y dedans, c'est vraiment avec une langue, etc., etc. Voilà. Et je vous ai lu aussi ce matin, j'ai parcouru, et on fera une émission si vous le faites, pour L'homme qui brûle, Alban Lefranc, et tous les deux. Et après, vous êtes lus mutuellement ou pas?
Bien sûr. Enfin, moi, en tout cas,
Moi, j'ai lu le livre.
D'accord. Et j'ai une question cruciale avant qu'on commence. Après, je vous ai, je sais, c'est pour vous. Je vous ai débusqué une chanson. J'espère que Monique mettra un peu le son un peu plus fort. Très rare de Léo Ferré. Et pour toi aussi, Benoît Viraud, vous allez comprendre pourquoi, on va voir. Et je vous ai dit tous les deux, et j'ai dit, mais ces gens-là, Kevin, et vous, Alban, il y a un côté destroy. Oui ou non? On y va. Oui ou non? Il y a un côté destroy.
Oui, ça dépend ce qu'on entend par là.
Mais... On va l'explorer. Ouais. Hein, on va l'explorer ensemble.
Moi, je pense que c'est l'époque qui est destroy et c'est le langage qui l'est. Donc, mais bon, bref, je vous laisse. Non, mais du coup, je réfléchissais à
J'y vais. Il y a un côté destroy, et quel respect vous avez tous les deux pour le langage.
Absolument.
Et ce qui m'étonne, et c'est là que vous allez vous débrouiller tous les deux par rapport à mon là, si ça résonne à vos oreilles, je n'en sais rien. Kevin vient du Canada et toi, tu es là. Voilà. Monique fait une introduction. Voilà, Monique est là. Ah, Monique me frôle, je n'en peux plus. C'est voilà. Nous allons reprendre notre discours. Un petit problème de micro sur Radio Liberté 89.4. Benoît Viraud est stupéfait.
C'est pas un soupçon de censure au plus haut niveau, ça?
Totalement. Alors, je pense que toi, tu es un peu plus vieux que... Voilà. Tu es sur notre bon continent européen et parisien avec cette culture-là. Toi, tu viens de l'autre côté...
du Québec,
Moi, j'ai vécu pas mal en Allemagne, je ne suis pas parisien.
Je sais, il me l'a dit, il m'a prévenu, mais ça, on va venir là-dessus. Ce côté, vous passez par un respect de la langue, tous les deux, du langage très, 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 très grand.
Ouais.
Et il y a une chose que vous me semblez ignorer par rapport au destroy.
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par destroy.
Je veux dire, c'est-à-dire que la Beat Generation qui arrive avant vous était des gens qui maniaient la destruction avec une destruction du langage, ce que vous ne faites pas, vous.
Mais pourquoi? Je ne suis pas si sûr que ça. Moi, je te laisse répondre après. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de respect pour le langage dans le travail de Kevin.
C'est pas une déférence, en tout cas.
C'est pas une déférence. Ou, chez toi non plus. Ouais. Et puis, moi, c'est un livre qui réagit aussi à un moment de dislocation du langage, quoi, politique ou public de manière générale. Un vrai moment orwellien, quoi. On est vraiment chez Orwell, quoi. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage, et l'ignorance, c'est la force, quoi. À un moment où donc on peut mutiler des gens dans les rues et appeler, et dans le même temps, beaucoup d'éditorialistes parlaient de débat national. Donc un vrai moment de béance entre une réalité politique économique et un discours qui est tenu sur elle. Donc moi, mon bouquin, il essaie de déplacer ces curseurs-là, d'exagérer certaines choses. C'est une espèce de bégaiement du présent avec une volonté de pousser les curseurs très loin. Donc,
avec un respect de la syntaxe totale.
Je dirais pas ça, moi, puisque la langue est vraiment trouée à beaucoup d'endroits par des... Enfin, après, si j'avais un immense respect... Enfin, comment dire? C'est ni blanc ni noir.
Il y a une oralité quand même. Le personnage cherche les mots. C'est marqué dans le texte.
Ouais, il y a des trous tout le temps.
C'est dégueulasse. C'est vraiment. C'est. La saloperie du monde, on vit que cette traduction à tout point de vue.
Ça reste des phrases de bon français. Moi, si j'ose dire, le côté destroy, je le vois vraiment adapté à la forme. Oui. À la génération précédente, c'était peut-être le mot, le lexique. Ici, il y a vraiment dans les deux cas un grand jeu et très ludique et très libérateur avec la forme, au point que un des premiers mots que j'ai dit à Kevin sur son livre, c'est que c'était un livre informe, au sens de baroque, monstrueux, qui était irréductible.
Ouais, c'est ça,
c'est un mot que Kevin a employé à propos du livre d'allemand.
C'était un autre informe.
Par contre, regardez par exemple, le point commun que vous avez tous les deux, c'est le rapport à la référence culturelle. C'est-à-dire que à un moment donné, vous me corrigerez. Vite, à un moment donné, je m'excuse pour tous les emprunts que j'ai faits au poète.
Non, justement, tu t'excuses pas. Je ne demande pas pardon.
J'en reconnais certains qui sont flagrants. Non, ouais. Je n'ai pas reconnu d'ailleurs. On verra tout à l'heure si j'ai le temps de le chercher. Voilà, il y a un rapport toujours au culturel là-dedans.
Oui, puis un rapport aussi de pillage, parce qu'on écrit comme ça, je pense, en pillant des textes qu'on aime ou qu'on aime moins. Puis moi, je trouve que la littérature là-dessus a peu posé la question de la propriété de manière très frontale. Donc, c'est une question évidemment politique, la propriété, on le sait, mais quand on écrit, je trouve que la propriété, c'est assez dur à situer, tu sais, puis le régime dans lequel on vit, économique, capitaliste, voudrait que ça soit très clair, la propriété littéraire, tu sais, qu'il y ait des idées ou des formes ou des mots qui appartiennent à certaines compagnies ou certains auteurs, certaines autrices, mais bon, quand on est plongé dans la littérature, puis qu'on fait des textes, puis même quand on lit des textes du passé, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis qu'on peut aussi reprendre, puis qu'il y a un travail là de où on n'est pas obligé d'être en pure, c'est ça, déférence envers le passé, mais qu'on peut aussi le récupérer, le recycler.
Oui, puis moi je pense qu'il y a un brassage dans nos deux livres de références extrêmement diverses, quoi. Donc il n'y a pas un geste citationnel déférent comme tu disais. Moi je me reconnais beaucoup dans ce que dit Kevin du pillage. Effectivement, on va puiser énormément de sources. Dans L'homme qui brûle, c'est vrai que face à une espèce de monde très disloqué, c'est un bégaiement de notre présent. On peut être en 2025, 2030, peu importe, c'est pas tout à fait notre présent, c'est notre présent légèrement pire, ce qui est difficile mais quand même possible. Mon personnage, Luc Jardy, c'est vrai qu'il va à plusieurs reprises, il y a une espèce de foi dans la puissance
Luc
de la
Jardy,
parole.
Il faut remarquer quand même que c'est pas gratuit le nom, hein.
C'est pas du tout gratuit,
hein. On va en reparler,
bien sûr.
C'est un des personnages qui m'a le plus fasciné au niveau du cinéma.
Dans l'armée des ombres.
Bien tombé, cher ami, on va en parler tous les deux. D'accord, magnifique personnage, hein.
Absolument.
Magnifique. Non, mais je veux dire, on va revenir à quelque chose tout à l'heure. Je vous parlais de la Beat Generation. Ça vous a touché ou pas? Vous en foutez complètement?
Moi, c'est pas dans mes références littéraires directes.
Moi non plus.
Après, il y a des choses qui m'intéressent évidemment chez eux, mais j'ai pas une connaissance très fine de ce qu'ils font.
Mais ça a été important pour moi, mais c'est pas quelque chose d'actuel. Je lis pas en anglais non plus. Donc il y a quand même un passage par la traduction. Je pense que toi, Kevin, tu pourrais les lire en anglais, mais c'est pas mon cas.
Ouais, je pourrais. Mais la figure de Kerouac m'intéresse quand même, parce que c'est un Québécois. Jack Kerouac, on le sait pas souvent.
C'est très drôle, c'est le seul que j'exclus véritablement de la Beat Generation.
Bon, mais visiblement, il est inclus.
Je parle des gens comme Ginsberg, Burroughs, qui sont vraiment attaqués à quelque chose au niveau du langage. Voilà.
Mais Kerouac aussi, parce que ça, je sais pas si c'est connu ici en France, mais On the Road, ça devait être écrit en joual québécois à l'origine. Il a commencé à l'écrire en langue orale québécoise. Puis il a changé en cours de route. Puis Kerouac parlait une langue aussi, une langue oubliée aujourd'hui, qui est une langue de la région québécoise, qui est une langue d'avant la normalisation des langues qui ont... même de la langue québécoise, qui n'est pas entièrement normalisée, mais qui s'est normalisée à cause de Radio-Canada, à cause de la diffusion de la télé, des médias et tout. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu Jack Kerouac parler en français, mais il parle un français qui a quelque chose, je le dis pas de manière péjorative, mais quelque chose d'archaïque, tu sais, qui a un lien avec une histoire, qui est une langue subalterne, qui est une langue aussi d'une population aliénée, parce qu'ils ont déménagé aux États-Unis, donc il y a eu toute l'aliénation linguistique de ses parents à la langue anglaise, puis de lui-même, donc... Ouais, c'est une figure qui m'intéresse là-dessus, puis il y a un très beau livre, si ça vous intéresse, de Victor Lévy-Beaulieu, un grand écrivain québécois, qui analyse le côté québécois de Kerouac, donc... C'est ça que je peux dire, la Beat Generation, mais je peux pas dire que c'est ma grande influence non plus.
Avant qu'on descende tous les deux dans vos deux livres, hein, on va le faire dans Querelle, Kevin Lambert, Nouvelle Attila, et Arrivage, c'est chez Rivage, Alban Lefranc, L'Homme qui brûle, une petite parenthèse. Vous savez que le phénomène, il y a un mot que vient d'employer Kevin sur l'aliénation, et puis on parle des citations là. Le gros procès qui a été fait à Aimé Césaire, puisqu'on en parlait, c'est-à-dire qu'il était resté blanc. C'est-à-dire qu'il était noir, ce noir était devenu blanc à cause de son éducation. Et les gens qui se veulent durs au niveau des Caraïbes, c'est le procès qu'ils lui font. C'est-à-dire comment on sort d'une culture. On sort d'une culture. Et lorsque je vous ai lu ce matin, là, j'ai feuilleté comme ça, et un anthropologue arriverait. Il verrait des pages prises au hasard, il trouverait Melville. On en reparlera après, promis. J'en trouverai Debord. À un moment donné, j'ai trouvé Debord Godard. C'est-à-dire, on tombe en plein dans le langage d'une certaine époque, d'un certain siècle.
Oui.
Hein? Voilà.
Absolument.
Et c'est très marrant, c'est pour ça que j'ai commencé ce rapport-là au niveau de la conversation. C'est que, effectivement, la Beat Generation vous échappe, mais là, ce langage, il est là. Debord, est-ce que le langage de Debord est tellement fort par rapport au langage de la Beat Generation qui vous marque et que Ginsberg et Baroque ne vous marquent pas?
Non, mais c'est pas si simple, parce qu'on est pétri d'influences diverses. J'imagine que c'est pareil pour Kevin, pour beaucoup d'entre nous. Moi, ça change du matin au soir. Enfin, j'ai des panthéons personnels qui varient au gré de mes humeurs et de ce que je vois.
Il y a quand même des panthéons fixes.
Pas tant que ça.
Pas tant que ça,
c'est très variable. Et après, c'est marrant que vous citiez Debord, parce que Debord, c'est un vrai effort, c'est un vrai parti pris. Moi, j'ai pas du tout de vénération pour Debord. Hein.
C'est un vrai parti pris, ça.
C'est un type que j'aime bien. Enfin, c'est un écrivain que j'aime bien, plutôt, pour le dire simplement. Et il y a un parti pris archaïque. D'abord, c'est une langue du 17e.
Du 17e, 18e. Hein.
Oui, très Pascal, mémorialiste français.
D'accord. Très pascalien.
Et du coup, c'est assez amusant que pour dire le contemporain, lui ait eu besoin, bon, c'est un geste esthétique assez fort et politique, de passer par une langue archaïque. C'est pas dans ces zones-là qu'on travaille, Kevin.
Mais ça m'intéresse, moi, ce rapport-là. Parce que souvent, je trouve qu'on a une idée fausse des formes littéraires, c'est-à-dire mettons, l'histoire de la littérature, parfois, elle tombe dans une rhétorique du progrès. Comme s'il y avait une sorte d'évolution linéaire des formes qui allait vers une forme de plus en plus contemporaine ou vers un présent de plus en plus fort. Mais le contemporain, quand on lit un peu Nietzsche ou Agamben, c'est aussi la distance d'avec le présent, d'avec soi, la définition du contemporain. C'est une sorte d'inadéquation. Puis je trouve que c'est intéressant. Petite, je sais que t'as écrit sur Fassbinder, mais moi, le film Querelle, mon roman s'appelle Querelle.
On va y revenir.
Mais je voulais juste dire un mot de ce film de Fassbinder qui puise à des manières de cinéma complètement dépassées. Absolument. Au moment où il le fait. T'sais. Donc, il met une caméra fixe où les acteurs jouent presque comme au théâtre devant sa caméra. Les batailles sont complètement fausses. C'est des faux coups, des fausses blessures. Donc, c'est comme si Fassbinder, pour parler de son présent, il avait besoin de formes archaïques de cinéma.
Ou du camp, en tout cas, c'est peut-être le
film. Oui, c'est ça, du camp, du faux, de formes dépassées. Moi, ça m'intéresse beaucoup.
Des fois, il y a des blocs qui tombe. Lorsque l'Autréamont apparaît, c'est un bloc qui tombe sur la littérature. Voilà ce que je veux dire. C'est une rupture. On ne peut pas s'en sortir. Vous avez un bloc qui tombe. C'est tout.
Voilà. Ouais, c'est une manière de le voir.
Oui, mais c'est pas linéaire.
Qui n'est pas linéaire, c'est ça.
C'est jamais linéaire.
Un bloc qui tombe n'est pas linéaire.
C'est pas un progrès non plus, parce que le progrès, c'est une idée capitaliste économique.
J'ai même pas pris un café. Monsieur Benoît Viron m'a même pas offert un café ce matin. On s'est croisés très rapidement et on est tombé sur un phénomène de hasard. Avant que Monique nous envoie une petite musique, que j'espère que vous allez écouter. Le phénomène de hasard, c'est que je voulais... j'étais au courant, j'étais informé de Fassbinder, de votre rapport à Fassbinder. Et c'est pas par là que je voulais prendre le livre de Querelle de Kevin Lambert. C'était par son film Bâle.
Oui, magnifique film. Oui, c'est bon.
Donc on va y revenir après. Hein, mais je vous raconte la fin de mon histoire avec Monsieur Benoît Viro. C'est terrifiant. Mais ce qui nous arrive, c'est terrifiant. Doc Pierson devait venir présenter 12 petits précis de pornographie de Nouvelle Attila. Elle est coincée à New York, c'est ça?
Exactement.
D'accord. Et j'ai dit ce matin à Benoît, j'ai dit, quand c'est possible, il me dit, je prépare un livre sur la pénétration.
Oui.
C'est juste ou pas?
Oui, c'est juste.
Et vous voyez Monsieur Benoît Viro faire une émission sur la pénétration sur Radio Libertaire?
Avec une liste de mots tabous à ne pas prononcer pour ne pas prêter caution aux mauvaises langues.
Je ne peux pas, parce que Monique ne va jamais me pardonner.
Alors, j'imagine très bien qu'un buzzer comme tabou appuyé quand une parole de travers est prononcée. D'accord. Donc ce livre s'appelle Au-delà de la pénétration, il sort dans une édition augmentée, enrichie, critique au mois de janvier.
Au mois de janvier, c'est une pénétration physique, spirituelle, c'est quoi?
J'espère que c'est spirituel. C'est l'histoire des alternatives à la pénétration physique et organique.
D'accord.
Et du coup, d'une exploration des rapports du corps, des rapports au corps.
D'accord. Malgré tout le contentieux.
Mais on poursuit la trajectoire et la thématique abordée dans ces deux livres. Bah,
bien sûr,
de rien.
On est là pour ça.
Je suis un obsédé textuel de première.
D'accord. Mais on avait fait une émission sur un livre sud-américain, je crois, qui était vraiment une.
Le Dieu Maïs. Les aventures du Dieu Maïs.
Bien sûr, Xavier Hon. L'homme à l'habitant d'or. Vous avez rougir à l'autre bout du micro.
Ah, mais monsieur. J'étais encore un jeune éditeur, géant.
Bien sûr. Donc on va se revoir pour ça.
Ouais,
d'accord, on va écouter une émission, c'est pour vous et pour toi Benoît, avec un petit peu de son, je crois que là, vous allez voir. Écoutez-la bien parce qu'elle est une chanson très malicieuse. Si ça marche.
Où t'en vas-tu, Martha? Je vais qu'à un cas tout en haut des Pyrénées. Et que fais-tu, Martha? Je vais porter mon bas tout en haut des Pyrénées. Je vais en portant sur mon dos, tout là-haut, des marchandises au bon Dieu. Car il est toujours très fauché, tout là-haut, le petit bonhomme en bleu. Reviendras-tu, Martha? Monsieur, je ne sais pas, j'aime bien les Pyrénées. Où t'en vas-tu, Martha? Je vais qu'à un cas tout en haut des Pyrénées. Que chantes-tu, Martha? Monsieur, n'importe quoi, puisque j'ai les Pyrénées. Si tu veux venir à Paris, oh Martha, je t'emmènerai avec moi. Je veux bien passer par Paris, mon ami. Il paraît que c'est joli. Viens avec moi, Martha, et Paris, tu verras, ça ressemble aux Pyrénées. Un jour l'on vit, Martha, descendra petit pas dans la rue des Pyrénées. Où t'en vas-tu, Martha? Monsieur, je ne sais pas où sont donc mes Pyrénées. Tu as voulu venir à Paris, oh Martha, il fallait rester là-bas. Monsieur, vous m'aviez bien promis tout là-bas de me ramener chez moi. À vos girards, Martha, ce soir tu t'en iras bien loin de tes Pyrénées. La prochaine fois, Martha, tu réfléchiras mieux au.
Eh ben merci Monique au 01 43 71 89 sur Radio Libertaire. Vous avez compris l'allusion, la rue des Pyrénées est magnifique, non?
Absolument.
Hein? Non, mais magnifique, c'est une chanson qui est absolument. Hein? Voilà, quand vous allez monter la rue des Pyrénées maintenant, voilà. Donc, on parlait de Fassbinder, parce que voilà, effectivement, la première réflexe que j'ai eue, ça a été de penser à, en lisant Kevin Lambert. Vous connaissez pas ce film de.
Non, je le connais pas.
Voilà, on peut dire à peu près ce que c'est. Bah, moi, je commence.
Bâle ou querelle
Bâle.
Le film Bâle.
Bâle. Je commence sur Brecht et vous faites Fassbinder.
Allez.
Voilà, c'est l'un des premiers textes de Brecht. Magnifique, il doit avoir 21-22 ans, vous me corrigerez.
Il y a des vrais points communs d'ailleurs avec le livre.
C'est évident, totalement évident, c'est la première chose auquel on pense.
Une force qui va, quoi.
C'est le mauvais garçon, c'est le destroy, c'est le destroy, c'est le mouvement punks, c'est le mouvement, c'est celui qui va jusqu'au bout de quelque chose avec un langage rimbaldien. Vous êtes traducteur d'allemand ou pas?
Je suis traducteur d'allemand, oui.
D'accord.
Et moi, pille, c'est surtout que Brecht pille allègrement Rameau.
C'est là que je vais en arriver. Alors, Brecht pille, on est en plein temps, il bouffe partout, il bouffe, mais c'est le mauvais garçon qui se promène, qui est destroy, qui va jusqu'au bout de quelque chose. Et on est en 1921-22?
Oui, je dirais ça. Oui.
Un texte absolument fastueux.
Du jeune Brecht. Ouais.
Du jeune Brecht, absolument fastueux, qui n'a plus grand-chose à voir, bien que Brecht soit toujours... Il y a quelque chose dans Brecht, hein. Brecht est super, Brecht.
Bien sûr, de manière générale.
Ah oui, non, il n'y a pas à voir. Brecht est absolument super. Oui, mais ce texte, si vous pouvez le lire, je ne sais pas comment on le trouve.
C'est publié chez l'Arche, c'est ça à quoi j'ai pensé. Banoun a fait une traduction de Brecht.
Le traducteur de Joseph Winkler.
Donc vous y avez pensé?
Pour mon livre, non.
Pour Querelle.
Enfin, maintenant que vous le dites, oui, j'y avais pas pensé directement en lisant, mais c'est vrai que la référence à Jeannet est plus évidente, plus visible. Mais maintenant que vous le dites, oui. Et puis surtout, il y a eu un film de Schlöndorff tiré de la pièce qui, moi, que je trouve pas incroyable, sauf évidemment la présence de Fassbinder qui joue Ball. Ouais. Et il y a un début qui est très célèbre où on
avec un Ishigula, c'est ça, dedans.
Je me souviens même pas s'il y a Ishigula.
Ils sont tout jeunes dedans.
Il y a Fassbinder, ça c'est certain.
Et c'est fait très peu de moyens. Ouais. Très très peu de moyens. D'ailleurs, c'est un film avec une caméra qui. Ouais. Primaire là, ouais. Et c'est absolument super.
Bah, c'est le jeune Fassbinder, c'est les premiers rôles de Fassbinder qui a déjà une présence très très forte, très belle. Ouais.
Moi c'est très drôle parce que lorsqu'on lit des livres, on découvre comme ça même au dernier moment, j'y peux rien. Hein, les exergues sont très parlants, hein, sont très parlants. Alors celui de Jean Basile, qui est Jean Basile?
Jean Basile, c'est un journaliste, critique littéraire, écrivain d'origine russe qui a œuvré à Paris, il a fondé une revue, je pense, à Paris, mais il a surtout travaillé à Montréal. Au Devoir, dans quelques revues aussi qu'on associe à la contre-culture. Puis il a fait l'exergue qui est dans mon livre vient d'un grand texte raté, en fait, qui devait faire des milliers de pages, 5000 pages. Il s'est rendu à 1500, puis c'est un livre inachevé, donc. Mais moi, j'aime beaucoup les ratages en littérature. Ben, pas juste en littérature, mais je trouve qu'on comprend mal les ratages, je trouve, en le voyant juste de manière péjorative ou comme un manque ou comme une. Alors qu'il y a une grande créativité du ratage. Dans ce que le ratage cadre pas en fait avec les attentes, avec les formes prescrites établies.
Vous savez qu'en peinture on appelle ça le repenti, hein, le repentir, c'est-à-dire qu'un peintre fait une toile, il vous met un nu devant, derrière, et puis on voit autre chose derrière.
Oui, c'est fascinant, c'est ça. Ouais, je connaissais pas le mot par exemple, mais c'est vraiment fascinant. Puis donc Jean Basile voulait faire ce grand roman là puis finalement on a accès au manuscrit qui est un immense fouillis, un immense champ de ruines, mais dans lequel il y a des magnifiques pièces qui sont restées.
Alors les marins de Genève, c'est magnifique, hein. Je sais pas si l'exergue est absolument splendide. Hein. Les marins de Genève, pour imaginaire qu'ils fussent, n'avaient pas dit leur dernier mot. Et leur sperme littéraire engendrait des fantômes qui ne quittaient une maison que pour entrer dans une autre, pour continuer, mi-farceur, mi-sérieux, leur petit jeu de sueur et de chaîne. C'est ouais. Magnifique, non? Je sais pas ce que.
Ouais. Mais j'aimais beaucoup l'idée de la. C'est-à-dire que ce qui est repris ici puis détourné, c'est la reproduction biologique. T'sais. Mais ça a une autre signification, reprendre la reproduction biologique dans une relation gay. T'sais, parce qu'évidemment, une relation gay, ça ne fonctionne pas comme ça. T'sais. Mais donc, il y a un geste queer, moi, je trouve, chez Jean Basile, de reprendre un signifiant qui est hétérosexuel, qui est lié à la reproduction, c'est ça. Puis de le penser en termes littéraires. Mais dans une homosexuels qui feraient des
Yeah.
au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio, la fédération anarchiste sans Dieu ni maître et Orbi comme Orbi, par conséquent sans sponsor ni publicité. Mais vous pouvez fréquenter la librairie, c'est rue Amelot, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. C'est ouvert du mardi 13h au samedi, et c'est métro République ou Fille du Calvaire. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle d'Aragon et d'Alain Ruscio.
Celle d'Aragon est faite.
Et d'Alain Ruscio, etc. La semaine prochaine, on va recevoir Ilio Chaï et Virginie Di Ricci pour le surréalisme et la fin de l'ère Artaud.
Ah, voilà.
On va passer par plein de choses comme ça, donc on va passer par Front Rouge, dont tu parles dans ton livre.
Oui, c'est ça.
Tu connais Monique à la technique ?
Oui, bonjour Monique.
Alors, c'est très gentil parce qu'on a eu, des problèmes pour se voir tous les deux. Oui. Hein, Monique fait des heures supplémentaires aujourd'hui.
Merci.
Je lui ai promis un voyage, soit au Baléares, soit aux Seychelles, soit à la porte d'Aubervilliers. J'opte pour la porte d'Aubervilliers.
L'exotisme étant ce qu'il est.
D'accord. Parenthèse, le Baléares, c'est de là que part Franco pour... non ?
Disons que le rassemblement de ses premières troupes, c'est dans le Rif espagnol.
Rif espagnol.
Et ensuite, effectivement, il passe par les Baléares. Et ensuite, bon, c'est pas ma spécialité, mais bon, c'est une chose assez connue. Et ben, c'est à rejoindre, à certains points de vue, d'ailleurs, l'histoire coloniale, puisque je vous rappelle que Franco et Pétain, 10 ans plus tôt, au moment de la guerre du Rif, avaient fait une alliance contre les patriotes marocains, et donc avaient utilisé déjà les armes chimiques. C'est une chose... Et d'ailleurs, on va peut-être en parler.
Mais nous, on s'était rencontrés pour un livre, Histoire avec un S, Ordinaire et Extraordinaire.
Oui, c'est le même éditeur.
Du temps des colonies, c'est ça ?
Du temps des colonies.
Chez Manifeste.
C'est ça.
Et tu étais venu, je me souviens, parce que j'ai essayé de te le barboter, j'ai pas pu, avec un magnifique album, ton album d'affiches coloniales.
En réalité, oui, c'était même pas seulement des affiches. Le principe, c'était de sélectionner des caricatures qui étaient parues dans la presse, donc ça pouvait être évidemment des affiches, c'était des caricatures parues dans la presse, c'était des publicités. On avait délibérément, parce que on avait choisi un angle d'observation, on avait délibérément éliminé la photo, puisque d'autres collègues ont fait et bien fait. Donc là, c'était vraiment montrer le titre, c'était quand les colonisateurs croquent les indigènes. D'accord. Donc avec un petit jeu de mots sur le verbe croquer. Donc toutes les manifestations du racisme le plus sordide.
Alors la plus célèbre, mais tu l'as pas mis dedans, je me souviens, c'est Yabon Banania.
Oui, c'était dans l'esprit de Yabon Banania, mais c'est tellement connu que je l'ai éliminé. Et je dois dire que c'était 90% de ma collection perso de caricatures, de documentation iconographique sur la... Et puis, bien sûr, la dernière partie concernait l'anticolonialisme, car heureusement, et d'ailleurs, la mouvance libertaire y a tenu sa place, puisque dans le Père Pénard, par exemple, il y avait énormément de condamnations du colonialisme. Josseau avait fait un certain nombre de caricatures anticolonialistes. Heureusement, il y en eut.
Alors, avant qu'on plonge dans cet Aragon et la question coloniale, il y avait, c'était sur Arte samedi, je crois, une chose, c'est très drôle parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas, tu vois, quoi, qui sont tellement évidentes qu'on ne pense pas. Il y avait un film qui s'appelait, j'ai même le Black Far West, comme ça repasse souvent, là, et il montrait, moi j'y avais jamais pensé, que les cow-boys étaient des Afro-Américains. Et c'est vrai que quand tu vois les films de cow-boys, t'as jamais vu un noir un cheval, ni combattre les Indiens.
Et, oui, oui.
Et pourtant, ça paraît être une évidence.
Bah oui, c'est ce qui correspond à l'esprit colonial généralisé. Hein. Donc, la même façon que la conquête de l'Algérie s'est faite en s'appuyant sur certains suppléants autochtones. Et ensuite, regardez la colonisation de Madagascar qui s'est faite avec des tirailleurs sénégalais qui, les pauvres, pouvaient pas donner leur avis, ou la répression de la guerre du Rif avec des soldats algériens. Enfin voilà, c'était un des vices profonds du système colonial.
Et pourtant, c'est une évidence. Parce que la guerre de sécession a cessé, c'est sûr, comme dit l'autre. Voilà, a cessé, et ben ils sont là. Et c'est pas des intellectuels, c'est des gens des chevaux qui sont sur la terre.
Et oui, bien sûr. C'est les gens qui ont besoin de manger. C'est aussi bête que ça.
Alors, il y a un livre qui vient de paraître, Le style réactionnaire de Maurice à Houellebecq. C'est Vincent Bertelier et c'est aussi sur Amsterdam. On fera une émission.
La filiation est belle.
Et c'est très drôle, on va être en plein dans le sujet Aragon et la question coloniale, on va y revenir. Dans ton livre, tu parles d'Aragon, bien sûr, qui a écrit Front Rouge en 1931. Oui. Front Rouge, c'est ça, ce fameux passage où il faut tirer sur les ours savants de la social-démocratie, Daladier et Léon Blum.
Et Léon Blum.
Et dans le livre, le style réactionnaire de Maurras à Houellebecq, j'en ai trouvé un qui a eu un procès pour menace de meurtre quant à Blum. Tu sais qui c'est ?
Bah, Aragon ?
Non, c'est Charles Maurras.
Ah, Charles Maurras.
Charles Maurras, voilà.
Pour des raisons.
Oui, certes, c'est
très différent.
Ouais, très différente, tu vois, au moment des funérailles de Jacques Bainville, historien bien connu,
réactionnaire,
modèle de Zemmour.
Réédité. Oui, voilà, oui, absolument.
En février 36, Léon Blum croise le cortège dans la rue et manque d'être lynché par des camarades du Camelot du Roi. À la suite de cette agression, Maurras est condamné par la justice pour complicité de provocation au meurtre. On retient contre lui un article d'avril 35 où il appelait à exécuter Blum.
Oui, c'est une chose assez connue, effectivement. On a même des photos assez terribles de Blum ensanglanté, de Blum enturbané après avec ses pansements. Bon, oui, la haine, mais je me souviens, puisque tu me parles de ça, je me souviens d'une réflexion de Mauriac à l'époque à la direction de... j'ai oublié son nom dans l'immédiat. À la direction du Figaro, quand Mauriac travaillait au Figaro, et Mauriac faisait en faisant une voix assez discordante de la tonalité générale du Figaro, en particulier sur l'Algérie. Parce que Mauriac a été un homme très, très, tout à fait respectable. Peut-être qu'un jour je ferai un livre sur lui, d'ailleurs, sur Mauriac et l'Algérie. En tout cas, Mauriac disait donc à la direction du Figaro, ne vous méprenez pas, ceux qui peuvent tuer dans la société française, c'est les gens d'extrême droite. Alors que le Figaro était dressé contre les gens de gauche et l'extrême gauche.
Voilà. C'est courageux de la part de Mauriac.
Oui, il a toujours été courageux. Enfin, pas toujours, soyons raisonnables. Il a été courageux dans les 15 dernières années de sa vie, en particulier contre la torture en Algérie.
Alors, je t'ai lu avec grande attention, je tiens à te le dire. C'est aux éditions Manifeste, félicitations à notre ami Victor Blanc, je crois qu'il
nous écoute.
Ton livre a un inconvénient.
Oui.
C'est qu'il aurait dû faire 300 pages, tellement tu essayes d'embraser de sujets. On va y revenir dans le détail, d'accord ?
J'ai l'habitude de lire 300 pages.
Voilà. Et jusqu'à la fin, puisque tu finis par le fou d'Elsa, selon moi, tu consacres 4 pages, mais tu as envie d'en consacrer beaucoup plus.
Oui.
Hein ? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais te raconter une histoire. J'ai chez moi un Bertolt Brecht. Qui fait 700 pages ou 800 pages, tu vois, le pavé.
Et sur Brecht ou
sur Brecht, il a toute la biographie de Brecht. Et le type qui a écrit ça démolit Brecht de A jusqu'à Z. Quasiment Brecht, il ne trouve. T'as l'impression d'assister, c'est un livre des années 90, je crois, t'as l'impression d'assister à un livre post-McCarthyisme, tu vois, payé par la CIA, il faut le dégommer. Et il y avait Yves Buin, qui était là un jour, et lui qui a écrit un livre sur Paul Nizan.
Oui.
Et j'ai dit à Yves Buin, mais est-ce qu'on peut faire un travail de biographie comme ça, sans empathie, sans sympathie, pour le personnage ? Et Buin me dit non, c'est quasiment impossible.
Je partage cette opinion.
Et en te lisant, mon cher Alain Ruffio, tu as beaucoup d'empathie pour Aragon. Tu as terriblement d'empathie pour Aragon. Après, tu vois où je veux en arriver, puis après, je te laisse, tu te débrouilles avec ce que je vais te dire. Voilà. Je mets à aucun moment ton honnêteté en jeu, bien sûr, ni ta sincérité, sinon tu ne serais pas là. Et là, il y a une autre dame, et je ne la connais pas, qui s'appelle Véronique Corinus, et qui parle des mêmes faits que toi. Aragon par rapport à Césaire, etc. Toi, avec les mêmes. Elle a une antipathie pour Aragon et une empathie pour Césaire. Et on s'aperçoit que ce n'est pas le même regard.
Alors,
voilà, donc ton empathie d'historien par rapport à quelque chose.
On commence par cette période ou on commence par le début?
Ta neutralité, ton empathie, tu te débrouilles.
Écoute, évidemment, je vais faire un plaidoyer pro domo. Évidemment, je ne partage pas ton regard. Il me semble que lorsque Aragon, humainement... Alors, le Aragon, la dimension humaine d'Aragon est souvent contestée. J'ai en tête, par exemple, l'autobiographie de Claude Roy, qui avait quitté le PC en 1956 et qui avait une antipathie très profonde pour Aragon et qui cite des anecdotes qui, effectivement, ne sont pas à la gloire de l'homme. Or, dans ce que j'écris, il me semble que c'est au contraire assez équilibré. Entre, par exemple, la polémique César-Aragon. Mmh. Je dis a posteriori, aujourd'hui en 2022 c'est plus facile, que César représentait la liberté de création, et ça je crois l'avoir écrit, et que Aragon s'est comporté à cette occasion, parce qu'il était à l'époque l'intellectuel leader incontesté du monde intellectuel communiste. Et je rappelle que la polémique a lieu pendant que César est encore membre du PC. Et donc, Aragon s'est comporté un petit peu comme un maître d'école. Mmh. Je cite un exemple, par exemple, à une réunion de la mutualité. Je dis ça de tête, mais ça doit être à peu près en 50-51. Meeting au cours duquel Aragon et César sont côte à côte. Et Aragon prononce un discours en hommage à César, enfin en le présentant au public. Ça peut être interprété comme un geste amical et même fraternel, mais ça peut être également interprété, et c'est comme ça que je l'ai interprété dans mon livre, me semble-t-il, ça peut être également interprété comme une façon un peu paternaliste. César dira plus tard fraternaliste, d'ailleurs, je crois que c'est lui qui a inventé le néologisme. Il présente un petit peu César comme s'il disait au public ayez confiance, si je vous le dis, c'est que César est un type fréquentable.
Ce qui est très colonial quand
même. Oui, ce qui est très fraternaliste.
Mais quand tu écris, regarde, Durand dit, après on plonge dans le livre Premier Jury, hein, Durand 10 ans avec sa petite musique personnelle sur la forme. Moi, en parlant de César, je ne pense pas que ce soit une petite musique personnelle sur la forme. C'est-à-dire que César défend quelque chose qui est, en fin de compte, tout le phénomène africain dans lui.
Oui, mais attention à l'anachronisme. Ce que je dis sur la période d'engagement communiste de César est prouvé quand même par beaucoup de textes. Je donne deux exemples. Le premier exemple, c'est le discours sur le colonialisme.
Magnifique texte, en passant.
Magnifique texte, mais je passe mon temps à rectifier les bibliographies lorsqu'on me dit que ce texte a été publié par les éditions Présence africaine en 1956. Mmh. Ce n'est pas vrai. Il a été publié en 1950 par les éditions Réclame, qui étaient des éditions directement pilotées par le PC. C'est un texte qui est un texte d'orthodoxie communiste à l'époque. Et il est dédié à Jacques Duclos. Mmh. Je signale d'ailleurs que pour ceux qui veulent vérifier au musée d'histoire de la ville de Montreuil, un musée avec lequel je collabore souvent, il y a un exemplaire dédicacé de César à Duclos, avec une dédicace extrêmement plus qu'amicale, de révérence.
Alain, je ferai remarquer que 50 n'est pas 56. Hein.
Alors, justement, c'est pour ça que je te parle d'anachronisme. C'est pour ça que je te parle d'anachronisme. Deuxième exemple, le 13e congrès du PCF qui a lieu à Ivry en 1954, en juin 54, je crois, César va lire un texte qui a été enregistré, qu'on a pu réentendre par la suite. Un texte qui est un texte d'orthodoxie. Alors, je ne me fais pas d'illusions, c'était une époque où un intellectuel qui commençait à prendre ses distances avec le PC ne le disait pas publiquement. Parce que sinon le coup prêt tombait, les exclusions, la mise à l'index, la dénonciation, évidemment. Mais il a fallu attendre 56 pour que César prenne l'initiative de rompre avec le PC. Il l'a fait d'abord pour Budapest, il l'a fait également pour le fraternalisme et les visions approximatives qu'avait le PC sur les questions coloniales. Donc, je cite également les rapports d'Aragon avec Kateb Yassine, par exemple, où Aragon, humainement, encore une fois, se comporte d'une façon pas très agréable. Et on a l'impression que Kateb Yassine est un petit garçon qui arrive dans son bureau. Et en même temps, Aragon est le premier en France qui publie les textes de Kateb Yassine. Ce n'est pas rien.
Tu sais très bien qu'il n'y a, a pas que Césaire. Il y a eu Marguerite Duras, il y a eu Roger Vaillant, il y a qui ont été ostracisés.
Mais je le dis dans mon livre.
Mais ça, tu le dis.
M'as-tu lu
ça, je l'ai lu. Tiens, tu lis, c'est parfait.
Par exemple, dans mon livre, je dis que Aragon, je parle de l'Aragon écrivain. Aragon écrivain avait une sorte de d'aura auprès de tous les écrivains communistes de l'époque, André Stil, Pierre Courtade, des gens comme ça, qui étaient considérés comme des écrivains, disons-le sans être péjoratif, mineurs. Mmh. Par contre, Aragon avait des relations conflictuelles et difficiles, voire pas de relations, avec les écrivains communistes majeurs. Je cite Duras, je cite Vaillant et je cite Césaire. Ce n'est pas rien. Donc je ne suis pas un Aragonien sans rivage.
Avant, on va écouter une musique. Tu vas faire le disque jockey. Tu vas commenter. Là, tu vas commenter le disque qui passe là. Lorsque Breton est mort, oui. Je crois que c'est le Libertaire qui avait titré un grand crime contre l'intelligence. Breton est mort. Arago est toujours vivant.
Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du temps. Tonnerre et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.
Superbe, non ?
Oui, doublement superbe. Aragon Ferré, que peut-on rêver de mieux ? Ah oui, donc c'est un poème dans une somme qui s'appelle Le roman inachevé, qui contrairement au titre n'est pas un roman, mais est un recueil de poésie. Et donc dans Le roman inachevé, Aragon a mis énormément d'éléments autobiographiques. Et donc là, il s'agit, je rappelle qu'Aragon a été militaire à son corps défendant, bien sûr, lors des deux guerres mondiales. Il était très jeune lors de la Première Guerre mondiale, je crois qu'il est parti en 16 ou 17. Mmh. Et donc, il a assisté à des choses absolument abominables. Et lorsqu'il parle de ses copains de régiment, ses camarades de régiment qui sont en train de jouer à la belote ou au tarot, je ne sais plus, l'un d'entre eux est coupé en deux par un obus. Enfin, ça, c'est des choses vécues.
On écoutera « Ainsi que les hommes vivent ». C'est du même, tiré du même recueil. Et c'est l'occupation française dans la Sarre.
Oui, bien sûr.
Donc, ton livre... c'est très drôle parce que moi, bon, je connais un petit peu quand même. Ça me dit quelque chose. Le Rif, ça me dit quelque chose. L'Éthiopie, ça me dit quelque chose. Et j'ai fait un tour de table autour de moi. La guerre du Rif, personne ne connaît.
Eh oui, hélas.
Voilà.
Et c'est donc, pas faute d'avoir essayé.
Alors, je sais, on a déjà parlé la dernière fois. Donc dans ton livre, par exemple, je sens que tu es très intéressé par l'histoire du surréalisme.
Oui.
Très intéressé par les rapports bretons et Aragon. Et ça se sent. Tu vois ça que je voulais te dire. Et tu aurais pu faire 300 pages sur le sujet, on aurait pu faire 5 émissions, on n'aurait pas été d'accord, monsieur Ruscio. Donc, bon. C'est 1920, 1922, la guerre du Rif ?
Non.
Allez, vas-y.
La guerre du Rif commence par là. Je rappelle rapidement la situation du Maroc à l'époque. Le Maroc est sous double protectorat, avec donc le nord et l'extrême sud, ce qu'on appelle Rio del Oro, qui aujourd'hui est considéré par certains comme le Maroc, le Sahara marocain, par d'autres comme un État en révolte, donc je ne reviens pas là-dessus. Donc l'Espagne domine le nord et l'extrême sud, mais une bande côtière saharienne, et la France occupe le centre. La France a oublié d'être bête, en l'occurrence, elle a occupé le Maroc utile, c'est-à-dire là où il y a vraiment toutes les richesses. Bon, et donc un chef de tribu qui dans un premier temps est d'ailleurs issu d'un notable de tribu qui s'appelle Abdelkrim lève l'étendard de la révolte contre l'armée espagnole dans un premier temps, va faire subir à l'armée espagnole des défaites considérables avec des milliers de morts, hein. C'est une chose qui est oubliée aujourd'hui, c'est une sorte de Dien Bien Phu marocain, si vous voulez, c'est quand même énorme. Et suite à quoi donc il va y avoir une alliance entre, quand la France coloniale voit que l'Espagne coloniale est en difficulté, il va y avoir une alliance de fait entre la France et le Maroc et l'Espagne contre le Rif, contre les Rifains, et donc celui qui va venir au Maroc pour la France, c'est celui qui à l'époque est le maréchal Pétain, que j'appelle plus jamais
Maréchal. C'est déjà Pétain.
C'est déjà Pétain.
D'accord,
c'est Pétain.
C'est déjà Pétain.
Et du côté de espagnol, c'est Primo de Rivera, mais son adjoint direct, c'est Francisco Franco.
Magnifique.
Donc l'alliance Franco-Pétain est déjà une préfiguration
L'histoire est là, oui.
Ah oui,
l'histoire
est là. Excusez-moi l'expression, c'est une saloperie intégrale, quoi.
C'est un lettré, Abdelkrim, ou pas ?
Alors,
comme Ho Chi Minh ou pas, ou
c'est difficile de comparer. Disons qu'il a une culture personnelle, mais il est issu des tribus du Rif dans lesquelles l'alphabétisation est très très faible, la scolarisation est très faible. En tout cas, il va y avoir cette alliance et la guerre du Rif va donc commencer en 22-23 contre l'Espagne et va se terminer en 26 face où Abdelkrim est obligé de capituler face à la coalition franco-espagnole qui, je le signale au passage, utilise des armes chimiques. C'est peut-être la première utilisation d'armes chimiques contre des populations civiles. Et aujourd'hui encore, il y a d'ailleurs des colloques qui se tiennent au Maroc pour dénoncer l'utilisation de ces armes chimiques et pour demander réparation à la France et à l'Espagne.
C'est un héros national, Abdelkrim, ou pour le Maroc ?
Alors c'est compliqué. C'est compliqué. À l'époque de la guerre du Rif, le sultan du Maroc, qui est déjà à l'époque Mohamed Ben Youssef, qui est très jeune, qui a été choisi, le pauvre, il avait vraiment aucune formation politique, va être un petit peu instrumentalisé par les Français, et donc ne va pas du tout se rallier, c'est le moins qu'on puisse dire, à la révolte d'Abdelkrim. Ce qui fait que lorsque Abdelkrim sera ensuite exilé par le colonialisme français, il sera exilé à la Réunion, je dis une bêtise, à Madagascar, et il va réussir ensuite à s'échapper en 1947, voyez ça. Et ensuite, lorsque le Maroc sera indépendant, à partir de 1956, Abdelkrim refusera de venir finir ses jours au Maroc. Et au Caire, là où il était exilé, rencontrera Che Guevara, c'est pas rien. Abdelkrim, pendant la guerre d'Indochine, écrira à Ho Chi Minh pour soutenir la lutte d'Ho Chi Minh. Vous voyez, c'est vraiment... C'est magnifique de voir ce
oui, croisement. Oui, c'est l'histoire moderne.
C'est l'histoire moderne. Et puis c'est l'histoire de l'internationalisme à l'état pur, je dirais. Donc voilà. Et donc, pour revenir à Aragon... Aragon et ses amis surréalistes ont leur premier combat politique, je dis bien politique parce qu'auparavant ils étaient très peu politisés, bon ils étaient plutôt des esthètes, parfois des dandys, on les accusait un petit peu de ce dandisme, mais ils s'aperçoivent à ce moment-là qu'il faut faire quelque chose.
Il y en a un qui y a été, c'est Desnos. Desnos a fait la guerre du Rif.
Oui, Desnos a fait la guerre du Rif. Voilà. Mais il l'a fait. Justement, il était une source de renseignements pour la communauté israélienne.
Parce que générationnellement, Aragon c'est 96, tu me corriges, hein, 96, oui, Breton 96, et Desnos c'est 1900. Oui. C'est-à-dire générationnellement, ça tombe.
Breton 95, je crois qu'il avait un an de plus.
Ah bon, d'accord.
Peut-être. D'accord, à vérifier. Voilà. En tout état de cause, donc, alors on parle de Desnos, on parle. Mais il y a également Benjamin Perret. Il y a également Pierre Unique, voilà. Il y a Paul-Éluard, bien sûr.
Ils sont tous concernés par ça.
Alors, ils sont tous concernés par ça. Ils vont se rallier à un appel rédigé par Henri Barbus, que pourtant ils détestaient, par ailleurs, littérairement parlant. Ils considéraient que Barbus était vraiment.
C'était un vieux con, voilà.
Oui, bien sûr. Mais ils vont se rallier à cet appel. Et il va y avoir une sorte de compagnonnage de route entre surréalistes et communistes qui va durer 6 ans quand même. Ce n'est pas rien. Avec cette particularité, c'est que Aragon, Éluard, Breton, pas Desnos, adhèrent au PCF, que Éluard et Breton le quittent très vite parce qu'ils considèrent que c'est invivable, et Aragon reste. Et donc la coopération communiste-surréaliste va durer jusqu'à la contre-exposition de 1931.
Année de front rouge d'ailleurs.
En 1931, l'État français, avec tous les moyens dont il dispose, plus les sociétés privées, plus la presse, etc., organise la grande exposition coloniale de Vincennes qui recueille la visite de 8 millions de Français et Françaises, donc c'est énorme, et les surréalistes et les communistes vont organiser une contre-exposition qui va se tenir Place du Combat, qui est aujourd'hui la Place du Colonel Fabien.
Alors, je vais te faire un grand aveu, j'étais à la manif hier et j'ai repassé ton livre, là. À un moment donné, tu racontes que c'est Breton ou Aragon, tu sais plus lequel dit quoi à qui dit « Ah, ces gens manifestent pour avoir 3 sous, ouais. Et puis ces dentistes sont très méprisants. » Et je regardais la foule hier, et je disais « Ces gens-là, où se situeraient un Breton et un Aragon ?» Tu vois, par rapport à ça.
Je crois qu'effectivement, c'est une étape. Je dirais c'est une étape, plus chez Aragon que chez Breton, parce que je pense que Breton, au fond de lui-même, était resté quand même assez distant avec ce qu'en 68 on a appelé les revendications alimentaires. Bon, c'est un petit peu le même esprit, hein. Mais je pense qu'Aragon, justement, a fait les pas d'essayer d'associer les deux revendications, les deux soucis, les deux problèmes de la société française. Dans un premier temps, effectivement, c'est Breton qui dit ça à Aragon. Aragon en a témoigné des années plus tard. Quand on pense qu'il y a la guerre du Rif, ils osent manifester pour leur 10 sous, quelque chose comme ça. Aragon acquiesce à ce moment-là. Et c'est bien plus tard, lorsqu'il est membre du comité central du PC, et il fait un discours qui a été un discours oral, je veux dire que la transcription a été orale. Il raconte cette anecdote et il dit que, justement, ça peut être pour certains un premier pas vers la solidarité internationale.
Cette préoccupation du matériel, c'est Césaire qui l'a aussi. Césaire, quand il va se rejoindre la... Je sais plus, c'est pour la départementalisation,
oui,
là.
46.
Il est déchiré. Il dit, moi, ce que je veux, c'est qu'à la Martinique, on ait de l'eau et qu'on puisse rouler sur les routes. C'est une déchirure.
Bien sûr.
Voilà. Dans ton livre, et puis on va progresser, t'inquiète pas. Dans ton livre, tu regardes, tu dis à un moment donné que tu tiens à le dire, que la déchirure entre Breton et Aragon est une immense déchirure.
Oui, bien sûr.
Ouais.
C'est pas moi qui le dis, c'est Aragon.
Oui.
Je crois que Aragon a quand même... Alors là, c'est une interprétation peut-être un petit peu... psychologique ou peut-être même psychanalytique, j'en sais rien.
Parce que c'est le mot que je veux employer ce mot-là.
Vas-y. Je pense qu'Aragon, au fond de lui-même, quand même, considérait qu'il avait chargé la mule, quoi, contre Breton. Et que, d'un certain point de vue, sa fidélité permanente au PC l'a amené souvent à accuser Breton. N'oubliez pas que Breton a fréquenté les cercles trotskistes, et à l'époque, pour les communistes, le terme de trotskiste était un terme de dénonciation politique. Donc, et je crois qu'Aragon, au fond de lui-même, devait se dire quand même, il n'est pas possible que que Breton soit l'homme que, alors, tel que je le dénonce, quoi.
Déjà, Breton va finir sa vie du côté des libertaires.
Oui.
Donc il va quitter tout ça. Deuxièmement, il y a dans le rapport. Alors, je tiens cette information, mais je le savais déjà, et puis c'est tellement clair. D'un ami à toi, d'un ami commun que nous avons, c'est l'infréquentable Valère Staraselski.
Oui, oui.
Voilà, j'espère qu'il nous écoute. Salut Valère.
Oui, salut Valère. Salut Valère.
D'accord. Qui me disait qu'entre, et je suis d'accord avec lui, entre Aragon et Breton, c'était une histoire d'amour.
Oui,
il y a une histoire d'amour ouverte, de deux jeunes hommes, de deux dandys qui se sont ouvertement aimés.
Oui, voilà. Tout à fait, je crois. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si je le dis dans mon livre, mais en tout cas, ça transpire dans les écrits d'Aragon. Et puis, au moment de la mort de Breton, évidemment, Aragon traînera toute sa vie la culpabilité de ne pas avoir dit. Mais c'était le fossé était trop important. Il y avait n'oubliez pas quand même, je le dis dans le livre, que à un certain moment Breton dit qu'il aurait fallu faire fusiller Aragon. C'était oui. quand même pas oui. à fleur et moucheté, hein. Et à contrario, l'affaire Nizan, par exemple.
L'affaire Nizan, on va en parler, oui, oui.
Oui, l'affaire Nizan a été une tâche indélébile sur le...
ce qui n'a pas arrangé les choses.
Ce qui n'a pas arrangé les choses.
Arrangé les choses, l'affaire
Nizan. Sur l'histoire intellectuelle d'Aragon, oui. C'est clair.
Oui. Mais il y a quelque chose... Déjà, les amitiés d'Aragon sont aussi parfois inquiétantes. Tu vois bien te souvenir qu'il a eu comme très grand ami Drieu La Rochelle. Hein.
Oui, c'est vrai.
Le traité de style est quand même dédié à Drieu La Rochelle.
Oui, ça, c'était dans les années...
Ah oui, non,
Breton,
je veux dire.
Aussi, le Breton aussi le fréquentait à l'époque.
Tu sais que, effectivement, Aragon va rendre hommage à Breton. Je crois que Breton n'a jamais plus parlé d'Aragon.
Ouais, je pense.
Voilà.
Aussi, je pense.
Et tu sais que dans la même série, Roger Vaillant va envoyer son. Alors que la rupture a été terrible avec Breton, va envoyer son. Je crois que c'est un exemplaire de la loi dédicacé à Breton qui ne va pas lui répondre.
Ah oui.
Tu vois,
le Breton était comme ça, oui.
Voilà. Mais ah oui, c'est ça, voilà. Mais je crois que je prends ton terme, on est dans la psychanalyse là. Ce sont deux mondes au niveau psychanalytique complètement différents. Tu vois ce que je veux dire,
oui,
complètement
oui,
différent
oui.
là. Il faut pas faire du papa Freud à la petite semaine, mais tu as le dandy, celui qui est resté le dandy, ça a été Breton, même s'il a vendu, il a vécu en vendant des tableaux, etc. C'est quelque chose. Et l'autre qui règle ses comptes qui a besoin du peuple. Aragon oui. a besoin du peuple, non?
Oui, oui, bien sûr. Bah oui. D'autant plus qu'il adhère au PC et reste au PC à une époque qui est extrêmement ouvriériste. Je le dis dans le livre. Un intellectuel qui adhère au PC, donc si je me rappelle bien. En 25, je crois, ou peut-être début 26. Un intellectuel qui adhère au PC en 26, il doit faire ses preuves, il doit presque s'excuser d'être un écrivain et donc prouver qu'il est fidèle à la classe ouvrière.
Oui, parce qu'on lui, on
et
lui
c'est
dit,
un examen de passage.
Voilà, c'est
permanent.
Ça, un examen de passage, c'est ce que tu
permanent.
Dis. Ouais, c'est ce que tu dis. Mais tu sais aussi bien que moi que Aragon n'a jamais fait dans la dentelle, c'est-à-dire que lorsqu'il y a le procès à Anatole France, il y a cette fameuse
oui, oui.
phrase, avez-vous déjà giflé un mort? Il va loin. En 31, c'est Front Rouge où il appelle à,
oui, oui, oui.
à descendre Léon Blum.
Oui, oui.
Quand il fait de la poésie nationale, alors c'est vraiment national, parce que c'est. Alors là, c'est au niveau du vers de Mirliton, on ne sera peut-être pas d'accord, mais ça y va. Et c'est comme ça. Et quand il va se promener dans Paris avec des jeunes hommes, faut
oui,
avouer, il accentue aussi la situation.
Qui fait même le brouillon de ses baisers
voilà.
sur le statut de Mayol. Oui,
voilà,
oui.
voilà, voilà. C'est-à-dire oui, qu'il. Il donne pas dans la dentelle, c'est ça que
non,
je veux
alors,
dire.
Oui, bah je veux dire, les grands hommes ont peut-être le droit, après tout, d'avoir ces vies excessives.
J'ai rencontré une fois Aragon, je le fais, puis on continue ensemble.
Vas-y, vas-y, vas-y.
Et ça va te faire très plaisir. J'ai rencontré Aragon au théâtre de la ville, il descendait, il était avec un giton, deux gitons, comme ça. Tout était cheveux blancs, veste, etc., pompe rouge. Et là, oui, c'est lui, c'est exactement ça. Et là, j'étais avec un ami à moi, Jimmy Gladiator, qui lui dit « Louis Aragon ». Alors Aragon s'arrête et je vais vous poser une question. Et Aragon s'est mis en arrière parce qu'il a été un peu... Il était vieux, il était assez effrayé, et mon ami Jimmy Gladiator lui pose une question historique. Il lui dit, est-ce vrai que tel jour, etc., etc. Et Aragon, ça corrobore, tu le dis à un moment donné, hein, corrobore, il dit oui, c'était tel jour, ça s'est pas passé par écrit, ça s'est passé par téléphone, et il était telle heure, etc. Avec une mémoire stupéfiante, immédiatement.
Oui, non, mais ça c'est pas étonnant, ça.
Voilà. Terrible.
Oui, voilà. c'est pas étonnant. Ben, sa mémoire, d'ailleurs, lui a permis également d'être le grand écrivain qu'il est. Puisque, bon, il y a des références historiques, des références culturelles, foisonne dans son œuvre, dans le fou d'Elsa. On va peut-être avoir le temps d'en parler.
J'espère qu'on va en avoir parlé. On va se faire un petit plaisir. Allez, et puis il y a un épisode historique que les gens ne connaissent pas. Puis avec l'actualité actuellement en Italie, c'est très intéressant. C'est l'Éthiopie.
Oui,
très bien. L'Éthiopie. D'accord. On va le faire progressivement.
D'accord.
Sur Radio Libertaire. Merci, Monique.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et le baiser au loin les suive? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était telle ou mon drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les suivent? Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches. Et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? Des soleils révolus.
Alors, est-ce ainsi que les hommes vivent au 01 43 71 89 40 avec Alain Ruscio? Bien voilà, c'est vrai, c'est la première guerre mondiale, hein?
Oui, c'est la première guerre mondiale.
Faut le dire,
dans
ça,
le quartier d'Hohenzollern, c'est le moment de l'occupation de la Sarre, oui. Voilà.
Donc, il y a cette histoire, ça on connaît un peu, c'est dans l'air du temps. Il y a une chose qu'on connaît moins, ça a été l'Éthiopie.
Oui. Alors, effectivement, on a tendance à... Bon, la vulgate historique a tendance à dire que la Seconde Guerre mondiale a commencé en septembre 1939. En réalité, elle a commencé déjà en 1935 par l'agression du Japon contre la Chine à l'époque nationaliste, et puis par les empiètements progressifs des puissances fascistes et par l'agression de l'Italie mussolinienne contre l'Éthiopie, qui était peut-être le dernier ou un des derniers. Il y avait le Libéria aussi, mais enfin il restait deux ou trois États indépendants en Afrique tout court d'ailleurs à l'époque. Et donc, Mussolini a jeté son dévolu sur l'Éthiopie. Ça a été une guerre très violente, mais la disproportion des forces a fait que l'armée italienne a très, très rapidement conquis l'Éthiopie. Et c'était un moment, donc on est en 35 là, hein, un moment un petit peu de gestation de ce qu'on peut appeler un pré-front populaire intellectuel. C'est-à-dire que un certain nombre d'intellectuels, en voyant la montée du fascisme, ont cessé les divergences intestines entre eux, entre les communistes ou communisants, socialistes ou socialisants, les radicaux, les démocrates de tout poil, je dirais. À partir de ce moment-là, ils se sont aperçus, bon, c'est le mouvement Amsterdam-Pleyel qui commence en 34, je crois. La montée l'arrivée d'Hitler au pouvoir 33, Amsterdam-Pleyel 34, la guerre d'Éthiopie 35, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et Aragon, avec Jules Romain, qui finira beaucoup, beaucoup plus mal, puisque Jules Romain finira vraiment à la droite de la droite, mais avec Jules Romain et avec d'autres, avec Jean Guéhenno, avec des gens comme ça, vont initier un appel d'intellectuels contre la guerre d'Éthiopie, qui aujourd'hui encore se lit avec beaucoup, beaucoup de plaisir, puisque c'est vraiment un cri d'alerte en disant si on continue à laisser faire le fascisme, et puis j'ai oublié tout à l'heure dans la liste, tout de suite après, c'est la révolte de Franco, donc la guerre d'Espagne qui commence en 36. Donc il y a vraiment une sorte de conjonction là, des événements qui est absolument terrifiante.
Amsterdam-Pleyel, c'est le noyau de ce qui va devenir l'association des écrivains et des artistes.
Le comité de vigilance.
Le comité de vigilance. Hein.
Les intellectuels antifascistes.
Alors on sent le fascisme qui arrive là,
et
effectivement l'Éthiopie, maintenant on ne sait pas trop ce que c'est, mais va être le point de départ de cette mobilisation.
Absolument. Absolument. Alors, ce que je dis également dans mon livre, parce que on a toujours tendance à oublier un petit peu la répartition des forces, c'est que contre l'appel, donc on peut appeler l'appel d'Aragon, puisque beaucoup pensent que c'est lui qui l'a rédigé, ça n'a pas été prouvé, mais enfin, moi je cite ça en note dans mon livre, contre l'appel, en tout cas initié par Aragon, et il va y avoir un contre-appel des intellectuels avec la patrie, qui est signé pas seulement par les intellectuels de droite, Charles Maurras, toute cette clique fascisante, mais également par un grand nombre d'intellectuels de la droite traditionnelle, l'Académie française. L'Académie, vous me direz qu'aujourd'hui, quand on la regarde, on sait qu'elle est également infestée par la réaction. Mais à l'époque, l'Académie française n'a pratiquement des gens comme Henri Bordeaux, par exemple, des gens comme ça.
Hermant aussi, un mec.
Oui, Abel Hermant, bien sûr.
Qui était directeur, donc directeur de l'Académie française, non, c'était le...
Non, je ne sais pas.
Non, d'accord,
ça va vérifier. Ouais,
c'était des gens
très bien. Quantitativement, il y a beaucoup plus de gens qui signent l'appel de soutien à Mussolini que de gens. Alors aujourd'hui, le prestige, évidemment, il est du côté des signataires. Je pense qu'il y avait Breton déjà à cette époque. Il y avait vraiment tous les gens qui étaient vraiment engagés contre le fascisme. Mais Mussolini a eu des défenseurs en France.
Mais on en a encore, hein.
Ah oui, alors encore.
Et on en a encore. Si tu vas en Italie, je peux te dire que l'Italie du Nord est complètement polluée par ça. Hein.
C'est incroyable.
Oui, incroyable. Et ça, ce qui est très drôle, c'est que nos experts et nos spécialistes qui découvrent ça à la télévision, moi je fréquente énormément tout ce qu'on appelle les lacs, tu vois, les lacs vers Milan. Et ça fait, tu vois des attitudes fascisantes. Tu vois ce film, Une journée particulière.
Ah oui, oui.
Tu vois des beaux mâles, tu les mets là-dedans avec le filet sur la tête et que c'est en train de défiler, c'est exactement ça. On est dedans. Ça, on ne savait pas. Une petite pique idéologique et puis après on continue. D'accord, ça te va ?
On y va.
On peut se permettre ça quand même. Alors, j'y vais à la serre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. J'y vais, etc. Le Parti communiste, c'est Marx. Le Marx, est-ce qu'il n'y a pas un côté monolithique qui empêche quelque part que l'individu, comme les surréalistes pouvaient l'entendre, puisse s'exprimer ? C'est-à-dire, est-ce que la grande rupture Breton-Aragon ne se situe en fin de compte pas là ?
Bah, moi, je ne considère pas ça comme une pique idéologique, je considère ça comme une réalité. Bien sûr que oui. Le marxisme du PCF de ces années-là, et je pense qu'on peut étendre l'analyse à bien des décennies plus tard, c'est un marxisme ossifié, qui est un marxisme extrêmement rigoureux, avec l'interdiction de sortir. Je veux dire, si on regarde les noms des plus grands penseurs marxistes français du XXe siècle, bon, on peut penser à Pulitzer, qui était plutôt, bon, il a pas vécu, donc on peut pas savoir ce aurait été son. Mais je pense à Henri Lefebvre, par exemple, des gens comme ça qui ont été marginalisés. Par une sorte de ce que j'ai appelé une ossification mise en place autour des principes du léninisme de Staline.
Continue ma provocation.
Mais c'est pas la provocation.
Si on regarde bien l'histoire, Alain, si on regarde bien l'histoire, et tu vas voir où je vais en arriver. Hein. Je suis dialecticien. Bon, tu vas voir où je vais en arriver. Le PC va rentrer dans la résistance une fois. Tu me corriges, hein, c'est pas moi l'historien, c'est toi. Une fois que le pacte germano-soviétique va être dénoncé.
Non, là-dessus, je partage pas cette. Le Parti communiste a adhéré dans un premier temps. Alors bon, là encore, on sort complètement de mon sujet et je suis loin d'être un spécialiste. Mais bon, il y a des gens qui ont travaillé beaucoup là-dessus et je les ai quand même un peu lus. L'analyse de l'internationale communiste en 1939 est de dire qu'une guerre interimpérialiste commence. Donc on n'a pas à choisir notre camp. Et le PC évidemment adhère à ça. Alors le PC clandestin, quand même pas oublier que c'est pas Vichy qui a dissous le PC, hein, c'est la Troisième République. Hein.
N'empêche qu'on réclame la republication de l'humanité.
Oui, c'est tout. Non, mais tout. Non, mais c'est pas n'empêche, c'est vrai. Dans cette première période, il y a une sorte de cheminement parallèle entre une aspiration à la résistance immédiate au nazisme et en même temps ce mot d'ordre de l'international communiste, mot d'ordre auquel le PC souscrit, la direction du PC souscrit, de dire qu'il faut essayer à l'intérieur de la situation nouvelle que la voix communiste puisse continuer à s'exprimer. Et donc c'est une chose qui a été longtemps reprochée à juste titre à la direction du PC de dire il faut essayer de faire reparaître l'humanité. Mais dès ce moment-là, n'oubliez pas que le premier numéro de l'humanité interdit, je crois que ça va être le 25 août 39, est un numéro qui appelle à la lutte contre le nazisme.
Contre le nazisme. Mais ça, c'est pour en arriver au nom que tu as prononcé tout à l'heure, toi, celui de Paul Nizan.
Oui.
Voilà. Paul Nizan, c'est l'exemple même d'un monolithisme qu'il ne peut pas accepter, ni Nizan. Aragon ne va pas accepter Nizan.
Ah, bien sûr que oui. Non, mais ça,
bien sûr que non. Il n'accepte pas.
Bien sûr que non. Oui, bien sûr que non qu'il ne l'accepte pas. Voilà. Bien sûr que oui à ton affirmation.
D'accord. Il y a un ostracisme par rapport à Paul Nizan et qui va être perpétué.
La culture communiste de l'époque stalinienne ou issue de l'époque stalinienne, donc dans les même des décennies qui ont suivi, est une culture qui considère que le PC doit être face à la bourgeoisie qui est éminemment bien organisé, le PC, qui se considère comme quelque sorte l'état-major du prolétariat révolutionnaire, doit être lui aussi extrêmement organisé et discipliné. Et que toute voix qui est dissidente par rapport au discours dominant, celui qui est imprimé par le bureau politique, est une voix à exclure. J'en sais quelque chose, puisque en tant qu'historien, en tant que jeune historien, quand j'avais 20-25 ans, j'ai fait partie des gens qui ont commencé à considérer que ça ne pouvait pas continuer et que l'écriture de l'histoire, par exemple, ne pouvait pas être seulement dictée par le bureau politique. Et je me souviens des premiers moments où je fréquentais ce qui s'appelait à l'époque l'Institut Maurice Thorez. Les gens qui donnaient la vérité historique étaient Jacques Duclos, Georges Cogniot, paix à leurs cendres et à leur mémoire, mais c'était les politiques qui décidaient. Et l'écriture critique de l'histoire telle que la nouvelle génération a commencé à l'écrire, a décollé à ce moment-là. Et donc, à certains moments, on a été considérés, nous aussi, comme des gens qui portaient trop loin la critique. Je dis dissident, non, le mot n'était pas employé, mais des gens qui portaient trop loin la critique. Donc, oui, c'était une culture monolithique.
C'est monolithique,
bien
voilà.
Bien sûr, c'est...
Et oui, ben à l'époque, c'était monolithique. Et puis maintenant, aussi peut-être, je ne sais pas, il faudrait voir ça de plus près. Ben, c'était La Voix d'Alain Ruscio. C'était une très, très bonne émission. Alain avec sur Louis Aragon. On la reprendra un jour, là. Et puis bon, ben, bye bye et à bientôt sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause. L'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Bon, on va reprendre nos directs sous peu. À bientôt, bye bye.
Écoutez, c'est l'heure du temps que je vous donne en délice, sans manière et sans malice. Braves gens, chantez, chantez tout le temps et ne soyez pas en retard. Préparez-vous pour ces deux départs. Car il pleut sur la planète et demain que peut-être. De Noé, on ira se promener. Braves gens, applaudissez tout le temps et ne perdez pas ce rythme, car cette terre n'est pas un rythme. Braves gens, c'est le tempo du moment et je vous l'offre à votre table. Est-ce si insupportable? C'est pas. Et si le temps s'arrête, rêve ou réalité, on peut bien s'en balancer. Braves gens, tout ira bien pour l'instant. Si vous êtes dans la norme, à poil ou en uniforme. Braves gens, malheureux ou bien contents, vous pénétrez dans le programme. Mais ne vendez pas votre âme. Braves gens, braves gens, braves, braves, braves gens. Brave, brave, brave.
petit air comme ça, venu de quelque part, s'est posé par hasard, je ne sais pas pourquoi. Il a dû traverser pour mieux se métisser des pays, des cités que je ne connais pas. Ah, ce qu'il est beau cet air-là. Le bonheur, je signe de ce pas. Par où est-il passé pour venir se poser dans mes pauvres pensées, au creux de ma guitare? Mais voilà que de suite il reprend la fuite, à peine est-il resté qu'il sort de ma mémoire. Ah, ce qu'il est beau cet air. Ah, si c'est ça le bonheur, je signe de ce pas. Est-il venu me porter le salut? S'il est tombé de nu, tout ça je ne sais pas. Peut-être il va rester pour mieux se transformer, puis sa destinée ne me regarde pas. Ah, ce qu'il est beau cet air. Ah, si c'est ça le bonheur, je signe de ce pas. Tu me connais assez, pourquoi ne pas rester? De mon esprit me dit la vérité. Quand tu seras parti, sera fini ma vie, sera fini l'amour, car c'est toi que j'aimais. Ah, il est parti comme ça. Ah, c'était que du bonheur cet air-là. Un petit air comme ça, venu de quelque part, s'est posé par hasard, je ne sais pas pourquoi. Il a dû traverser pour mieux se métisser des pays, des cités que je ne connais pas, que je ne connais pas, que je ne connais pas.
sur la planète. C'est parti pour faire la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Il est petit ce paradis. La vie, la vie, la vie, la vie. Il est petit et du même avis. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Il est petit ce paradis. La vie, la vie, la vie, la vie. On n'est pas tous du même avis.
Il y a des gens qui sont tristes, il y a des gens qui sont gais, mais tous ceux qui sont sur la liste cherchent à se faire pardonner pour s'en aller dans l'au-delà. Car peut-être que là-bas, tous ceux qui ont été bien sages ici iront droit au paradis. Ouais. Ah, tant pis pour moi, ah, je vais rater ça. Car il paraît que là-bas, on se fait jamais de soucis. Et les anges qui nous entraînent nous disent que c'est la vie après la vie. Qu'on a tout ce que l'on veut, et même peut-être mieux. Tous ceux qui sont ici martyrisés, là-bas seront canonisés. Ouais. Oh, tant pis pour moi, oh, je vais rater ça. Et s'il s'avérait qu'aujourd'hui tous les hommes changent d'avis, si l'on était plus sage et qu'on sache conserver son terre de paradis, y aurait de la joie partout et les anges seraient jaloux. On serait partout bien dans nos peaux et ce serait plus rigolo. Ouais. Ah, tant pis pour moi. Je vais rater ça, la 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 la. Tant pis pour moi.